Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast pour la deuxième saison. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. Cette année, le podcast élargit sa palette de professionnels suite à vos demandes et j'espère que cela va vous plaire. Il y aura donc certains mois d'autres métiers mis en avant. De plus, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux et les plateformes d'écoute. Toutefois, les témoignages de patients sont toujours présents. Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Céline, une infirmière de coordination en hôpital à domicile. D'infirmière humanitaire en Afrique à infirmière coordinatrice en France, elle nous raconte son histoire avec beaucoup de pudeur, mais surtout l'amour de la profession. Certains termes médicaux sont utilisés durant notre interview. Ces derniers sont tous référencés dans la barre d'infos. Bonjour Céline et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour répondre sur le podcast. Est-ce que pour que tout le monde puisse apprendre à vous connaître, vous pouvez simplement nous expliquer votre parcours personnel et professionnel ?
Bonjour Aurélie, je m'appelle Céline, je suis rentrée à l'école d'infirmière en 1995. J'ai été diplômée en 98. Et j'ai un parcours professionnel, on va dire, varié et pas linéaire. Donc, j'ai démarré en tant qu'infirmière à Varsovie. Donc, à l'époque, la Pologne n'était pas encore dans l'Europe. Donc, je n'ai pas pu exercer en tant qu'infirmière. J'étais institutrice dans une école maternelle privée française. Et ensuite, j'ai pu exercer en tant qu'infirmière un an au Sénégal. J'y étais partie pour une mission humanitaire, j'y suis restée. Et ensuite, je suis revenue en France et j'ai fait le choix de présenter le concours d'infirmière en santé scolaire. Et j'étais donc titulaire d'un poste sur un collège, lycée. Donc à cette époque-là, j'étais essentiellement infirmière de prévention. On appartenait encore au rectorat et pas au chef d'établissement. Donc j'étais tous les jours dans les salles de classe pour la prévention sur la sexualité, les produits. En 2002, les choses ont changé. On a appartenu au chef d'établissement, donc... La priorité était la réponse à l'urgence au sein de l'infirmerie et les missions de prévention ont été faites par les CMP et les différentes associations autour.
Et comment vous êtes arrivée ici ?
Je suis dans un service d'hospitalisation à domicile au sein d'un CHU. J'y suis depuis octobre 2020. Ça a été mon deuxième redéploiement pendant le Covid. Donc, avant d'être dans un service d'hospitalisation à domicile, j'étais à l'hôpital de jour d'oncodermato où je reconduisais le planning des patients qui étaient sous immunothérapie. Et il a fallu en urgence sortir les patients des hôpitaux de jour pour que leur traitement soit réalisé à la maison, les préserver du risque Covid. Simplement, l'immunothérapie ne faisait pas à domicile. D'ailleurs, le CHU dans lequel je suis est un des trois de France à les faire à domicile. Donc, il a fallu mettre en place les outils nécessaires pour que ce soit possible. Couvrir le risque allergique, établir les protocoles, former les infirmières libérales.
Là, vous êtes à l'hôpital à domicile. Est-ce que vous pouvez un peu présenter ce que c'est ?
Donc, je travaille dans une HAD. Dans cette HAD, on est 50. Il y a différentes filières. Il y a la filière obstétrique, il y a la pédiatrie, il y a la filière adulte où les patients sont en soins avec des infirmières libérales en ville. Il y a la filière adulte où il y a des infirmiers de l'hôpital qu'on appelle salariés qui vont à domicile. Et puis il y a une filière qui autrefois s'appelait chimio, qui était nommée par le produit. Et dans cette filière était coordonnée à domicile la réalisation de 4 chimiothérapies. Donc quand je suis arrivée, j'ai demandé à ce que cette filière soit renommée, puisque c'était un peu stigmatisant pour les patients sous immunothérapie de se faire appeler les patients chimio. Et je trouvais plus intéressant qu'on renomme une filière par rapport au parcours du patient que par rapport à un produit. On est parti de l'idée que c'était un hôpital de jour qui se faisait à domicile, et donc cette filière est renommée HADJ. Sont coordonnées des traitements, les chimiothérapies, les immunothérapies, les thérapies ciblées et pas que des anticancéreux, puisque pour les patients qui avaient eu par exemple 5 fois le vaccin du Covid et qui n'étaient pas en capacité de développer des anticorps, on a coordonné des anticorps monoclonaux. Cette filière a augmenté sa file active de 30% l'an dernier. Et là, on est déjà à une énorme augmentation cette année. Cette filière, elle évolue. En fait, elle n'est plus du tout la filière chimio. Elle est vraiment devenue la filière hôpital de jour à domicile. Elle va s'agrandir encore puisqu'elle permettra de réaliser de la recherche en HAD avec un protocole à venir pour la sclérose en plaques. Mon parcours varié me sert énormément à mon poste aujourd'hui, que ce soit les postes que j'ai pu avoir, puisque j'ai quitté l'éducation nationale en 2002 pour rejoindre la fonction publique hospitalière, en alternant des postes, que ce soit en psychiatrie ou en orthopédie. Puis j'ai commencé les missions de coordination en 2015 en addictologie, puis passé un DU de pratique addictive aussi, et me former à l'éducation thérapeutique, à l'entretien motivationnel et à pas mal de formations de gestion des émotions. Et cette expérience-là me sert énormément puisqu'en fait, la veille de chaque traitement, j'appelle le patient. On a une vingtaine de protocoles différents avec des checklists différentes pour s'assurer que l'état clinique du patient est compatible avec le traitement qu'il va avoir le lendemain. J'ai le patient en amont, souvent à la deuxième fois où il a le produit, il est déjà à domicile maintenant. Donc il y a énormément d'éducation thérapeutique et énormément de repérage à faire des effets indésirables, notamment au niveau de l'immunothérapie, qui sont des effets indésirables qui ne sont pas encore suffisamment connus. Donc on éduque le patient, on éduque son entourage, on diffuse l'information au médecin traitant, on lui transmet nos propres checklists, nos protocoles, pour qu'il puisse lui aussi repérer les différents effets indésirables. Une fois que j'ai recueilli toutes ces informations-là avec mon patient, c'est-à-dire que je forme aussi mon patient à se peser, à prendre sa tension lui-même, sa température, à pouvoir repérer ce qui se passe pour lui, vraiment à l'amener à être acteur de ses soins. Je fais un recueil aux différents oncologues, on travaille avec 13 spécialités, ou à l'oncologue de l'HAD. La validation se fait ou pas. Si elle se fait, je me coordonne avec le laboratoire de cytologie qui fabrique la chimio de 16h à 17h la veille ou qui reconstitue l'immunothérapie. C'est livré à l'HAD à 17h30 et le lendemain matin, on se coordonne avec notre propre service de logistique qui va faire les tournées. Le CHU dans lequel je suis est l'unique point de fabrication. Donc ensuite, une fois qu'on a fini notre appel avec le patient et que c'est validé, on va reprogrammer. Donc chaque traitement a un autre protocole. Il y a des cures de 6 jours, il y a des cures toutes les 3 semaines, il y a des J2, J4, J8. Il y a un vocabulaire. Le premier jour de cure s'appelle le J1. Et donc ensuite, on compte. Et donc on le reprogramme aussi à l'informatique. On a fait le choix, et ça pour moi c'est important, de laisser le patient libre choix de son professionnel. Donc quand on réalise son entrée, on lui demande de désigner un cabinet. Ensuite, on appelle ce cabinet pour savoir s'ils sont d'accord pour réaliser le soin. Et puis ensuite, on le forme au protocole, au produit. On prend ce temps-là, ce temps de coordination. Et ensuite, on va réaliser la lettre de mission, puisque quand le patient est en HAD, ça ne relève pas de la carte vitale, mais c'est le CHU qui va mettre les moyens de l'hospitalisation au domicile du patient. Donc on a une réglementation spécifique, une norme NGAP avec une régie hospitalière et c'est l'HAD qui va rémunérer l'infirmière libérale. Donc j'établis une lettre de mission, c'est-à-dire ce qu'elle pourra facturer le jour où son patient est en HAD et son patient ne sera en HAD que le jour de la perfusion ou du traitement. Et donc à l'entrée, je liste aussi le matériel que je vais mettre à disposition de l'infirmière pour travailler. C'est le matériel du CHU. Donc quand le patient entre en HAD, le matin, le logisticien amène et prépare le matériel que je lui aurai listé pour l'infirmière libérale. Il part avec la prescription, il part avec la perfusion et le patient met sa perfusion au frigo et appelle sa libérale. Et ensuite coordonne avec elle sur son horaire d'arrivée et 30 minutes avant sa venue sort la perfusion du frigo. Et ensuite le patient va gérer tout ce qui est médicaments de produits d'exception, son antinauséeux ou médicaments de produits de support, son patch d'EMLA sur sa chambre implantable. Donc c'est vraiment important d'amener le patient à être acteur de ses soins. Sans lui, ça ne sera pas possible. Et j'aime beaucoup amener un patient à comprendre ce qui se passe pour lui. Est-ce que ça a du sens? Et je me rends compte que finalement les patients apprécient énormément. Et plutôt que d'attendre mon appel le matin, la veille, souvent ils m'appellent Ils sont très contents. Ils savent, ils connaissent ma checklist au bout d'un moment. Ils savent ce dont j'ai besoin pour savoir s'ils vont bien ou pas. Donc, ils m'appellent. Ils me disent, ouais, c'est moi. Je vous appelle. Je pèse tant. Ma tension, c'est tant. J'ai pas de fièvre. Je vais bien. Et j'ai pas de signe, nanana. Même si on maîtrise pas tout dans la maladie, chaque histoire a une autre histoire. Et bien, ne serait-ce que ces données-là de base qui sont essentielles pour nous, et bien, ça leur permet de reprendre un peu le contrôle.
On voit vraiment le chemin de l'éducation thérapeutique dans ce que vous dites. Là, le fait de travailler en coordination, est-ce que la technique, ça manque ?
Non. Il y a eu un moment où, les dernières années où j'étais en technique, j'étais infirmière de l'équipe mobile en dermatologie. C'est-à-dire que je formais les équipes aux soins de dermatologie et je pratiquais avec elles le temps qu'elles soient formées pour des patients qui étaient hébergés en dehors de la dermatologie. Et cette posture où je vais être à côté d'un patient pour qu'il se relève et l'amener à être acteur de ses soins, pour qu'ils prennent le relais, c'est souvent le patient qui quitte l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est la place où j'aime être. Le moment où le patient est dans son lit est finalement assez dépendant, parce qu'il est encore trop fragile. Il y a quelque chose qui est passé, et je travaille depuis 1998, et en fait, je n'ai pas suffisamment de collègues avec qui je peux échanger sur ce point pour savoir si c'est une étape au bout d'un certain nombre d'années de travail, ou si c'est simplement moi qui préfère avoir un patient à côté de moi et où on avance ensemble, plutôt qu'un patient qui a vraiment très 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 besoin de moi.
Est-ce qu'on peut revenir sur vos missions que vous avez faites en humanitaire ? Pourquoi ce choix-là dès le début de carrière ? Comment ça s'est passé ?
Alors, il y a des choix dans la carrière qu'on fait. Qui sont liés soit à notre vie amoureuse, les suites de conjoints, et après des choix qu'on fait parce qu'il y a les enfants et qu'à un moment donné, on privilégie des horaires de travail. J'ai fait 3 ans et demi en école d'infirmière avec les sœurs et j'avais vraiment des rêves d'Afrique. C'était un rêve l'Afrique. Donc j'étais très jeune, j'avais 22 ans et j'avais idéalisé l'Afrique. Donc je suis allée voir la réalité, voilà. Donc j'ai rejoint une association Passeport pour une naissance, c'était des sages-femmes qui avaient besoin d'une infirmière pour faire un audit sur un service de pédiatrie. Ça c'était sur le papier, dans l'hôpital de Yoff à Dakar, sauf que quand je suis arrivée, l'hôpital était en grève, le service de pédiatrie était vide, parce que c'était le changement de gouvernement entre Abdou Diouf et Ouad. Donc on m'a mis en salle d'accouchement à Guédawaï, en banlieue, dans l'hôpital du roi Baudouin, au poste Épizio. Dans une pièce unique, avec des fils à linge où les gants étaient relavés et séchés, et avec les seaux au bas de chaque lit et les chats du village qui se nourrissaient des placentas. Les femmes arrivaient de la brousse avec leurs pagnes, leurs bilbils, c'est des bijoux avec leurs croyances, et on emballait le bébé qui était né dans un pagne et on les mettait sur la paillasse. Et très peu d'enfants étaient viables, puisque s'il n'y avait pas de montée de lait, il n'y avait pas de lait en poudre. Et puis, beaucoup de femmes refusaient les épisiotomies parce que dans les croyances, si elles avaient une épisiotomie ou un enfant mal formé, c'est qu'elles avaient fauté pendant leur grossesse, donc elles allaient être répudiées par la famille. Voilà. Donc ça, c'était la réalité. J'ai énormément appris. J'ai eu la chance de vivre au départ à l'hôpital de Yoff et ensuite dans un quartier. J'ai maintenu quelques temps mes habitudes d'européenne parce que je connaissais que ça. Et puis, j'ai eu plusieurs infections Escherichia coli. Je me suis dit, mais eux, ils sont pas malades. Alors, j'ai commencé à manger du thibaudienne et j'ai emmené mes boîtes et j'ai mangé très local et j'ai arrêté de tomber malade. Je suis allée me baigner, je me suis noyée. Le maître nageur m'a dit, mais la Blanche, t'as pas vu, si j'ai mis les enfants là-bas, c'est que c'est le seul endroit où il n'y a pas de courant. Donc, il me dit, la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est avec les enfants. Donc, et au fur et à mesure, il a fallu que je déconstruise, que je me dise, mais non, tu vis pas comme t'as vécu, comment ils vivent, eux? Et ça va très bien se passer. Et donc à la fin de l'année, dans le quartier, on m'appelait la Touba Bounioul. Parce que Bounioul, ça veut dire noir en Wolof. Et eux, ils parlaient Wolof. Et Touba, c'est le blanc. Et donc j'étais enfin arrivée au summum. J'étais une blanche qui faisait comme les noirs.
Ouais, c'est un certain prestige, j'imagine.
Voilà. Voilà.
Et vous parliez de Varsovie aussi ?
Varsovie, ben là, c'est une rencontre amoureuse. Il était coopérant au service national parce qu'à l'époque, l'armée était obligatoire pour les garçons et ceux qui ne voulaient pas la faire choisissaient des filiales à l'étranger. Donc, il y avait la barrière de la langue, mais il n'y avait pas la barrière de la culture. Mais bon, la Pologne a dit, bah, la France, vous ne voulez pas nos infirmières polonaises parce qu'on n'est pas dans l'Europe, bah, nous c'est pareil, on ne veut pas des Françaises. J'ai travaillé dans une école maternelle, je suis quand même très agréable, c'était des enfants issus de couples mixtes qui devaient parler français, ça me permettait de progresser un peu en polonais. Et puis j'avais l'habitude de faire des centres de loisirs, j'avais mon BAFA, donc j'étais en difficulté. Sur l'hospitalisation à domicile, donc on est une cinquantaine de personnes. Chaque filière a des projets différents. Moi, sur ma filière HADJ, finalement, ce qui va être important sur la période à venir, c'est de diffuser plus d'informations au niveau des infirmières libérales. Donc, je vais me rapprocher prochainement du réseau Azalé pour faire une présentation. Je vais me rapprocher aussi des infirmiers coordinateurs des maisons de santé. Je pense que je vais pouvoir y consacrer une demi-journée par mois pour diffuser de l'information sur l'immunothérapie essentiellement, ces nouvelles molécules qui arrivent en ville. Et puis, je vais consacrer du temps aussi à mettre en place la filière recherche en HAD, qui me paraît être importante pour moi, parce que quand j'étais en hôpital de jour en dermato, et que je suis venue à l'HAD, donc j'avais récupéré une partie des patients que j'avais en dermato, qui devaient être coordonnés pour le coup à domicile, puis il m'en manquait un certain nombre. J'étais surprise. Et puis, j'ai refait le point en haut. Puis, on m'a dit, mais ces patients-là, tu ne peux pas les avoir à domicile parce qu'ils sont dans un protocole de recherche. Donc, je lui ai dit, c'est injuste. Le patient accepte de participer à la recherche. Et du coup, ne peut pas être protégé du risque Covid. Et du coup, ne peut pas bénéficier de son traitement à domicile parce que le circuit n'a pas été écrit. C'est-à-dire qu'il y a certainement deux tubes pour le FS à prélever. Et ce circuit-là, il n'est pas écrit. Donc, il me tardait que le Covid se pose un peu pour qu'on puisse écrire avec les assistants de recherche clinique ce parcours et rentrer dans certains protocoles de recherche, c'est-à-dire avoir la rigueur nécessaire aussi pour que ce soit possible. Donc, ça va être possible prochainement, c'est-à-dire sur les lettres de mission des infirmières libérales, on va faire des cotations pour qu'elles effectuent des choses pour la recherche et la ligne budgétaire des laboratoires au CHU. Et à l'HAD va se faire aussi pour qu'on puisse être remboursé de ces travaux-là. Donc ça, c'est dans les projets à venir.
J'ai l'impression que vous êtes assez libre de ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est une réalité ou c'est peut-être quelque chose que j'idéalise dans votre discours ?
J'aime beaucoup la notion de projet. J'aime beaucoup mettre en place des projets. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler en addictologie dans le cadre d'un projet médical. Et c'est complètement différent d'un service habituel. C'est-à-dire que les médecins deviennent notre supérieur hiérarchique. On n'est plus en collaboration. Et on réalise des véritables binômes avec eux. Ce qui m'a permis de beaucoup apprendre. Et j'avais l'habitude de beaucoup travailler avec les laboratoires pour bénéficier des formations. Et aussi présenter au grand public les traitements. Donc, au CHU, on avait une dotation de traitement de substitution et on a travaillé pour supprimer cette dotation et en lien avec la ville et les patients pouvaient, sur ordonnance, chercher leur traitement en ville, ce qui était assez novateur. Puis, on a eu à vivre aussi la guérison de l'hépatite C avec le laboratoire Gilead, la mise en place des TROD pour le dépistage. Puis il y a eu des événements en addictologie qui m'ont permis de beaucoup apprendre. J'ai eu mon DU, on m'a demandé de faire un mémoire de recherche, ce qui m'a amené à des rencontres, à beaucoup de lectures, à du travail. Ça m'a permis d'avoir des connaissances, de faire du lien, d'avoir un réseau qui me sert encore aujourd'hui, puisque ce réseau Azalé, je l'ai réactivé il y a peu de temps en disant « Est-ce que vous voulez qu'on fasse avec l'immunothérapie ?» comme on a fait en addicto autrefois. Et ils m'ont dit oui, on est très intéressés. Remettre à jour leurs connaissances, échanger, voir ce dont ils ont besoin comme information. Et puis nous, on explique les produits qui évoluent. Je me sens libre de mettre en place les projets. Je réponds à des besoins. C'est le ministère demande aux HAD dans les 5 ans de développer la recherche. Donc je suis aussi en accord avec ce qui est demandé et ce qui doit se faire. Simplement, les formations que j'ai faites, les postes que j'ai pu avoir font que je me sens dans une continuité et bien dans ce qui est en mettre en place et pas en difficulté. J'ai aimé aussi toutes ces années où j'ai travaillé en psychiatrie. J'ai fait le choix de travailler en psychiatrie aux urgences. Donc, il y avait 8 chambres d'isolement. On était 2. J'étais toujours au premier poste de parole parce que j'étais une femme et j'avais souvent un homme très musclé derrière qui ne parlait pas. Et donc, quand le patient était en chambre d'isolement, c'était assez facile. Il fallait être ferme, contenant et attendre qu'il allait mieux, qu'il se repose. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec des patients psychotiques en service et avec des patients névrosés, avec troubles de l'humeur, gestion des émotions. J'ai d'excellents souvenirs de prise en charge. À l'époque, on était en nombre. On était 7 en poste pour 21 patients. La priorité était au travail de parole et pas à la contention chimique. Avant l'entrée d'un patient, on désignait qui allait être un petit peu référent. C'était un travail riche, passionnant. J'ai des prises en charge en tête. On nous dit, demain, vous allez réaliser l'entrée d'un tel qui, aux urgences, il a avalé de l'eau de Javel. Point. Donc, soit on fait le choix d'avoir des représentations un moment avant d'accueillir le patient, soit on se dit, ben non, là, j'imagine rien et j'attends la rencontre. Là,